Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous, alors je vais juste vous dire deux mots avant le podcast d'aujourd'hui. D'abord, comme régulièrement, on commence par une présentation du numéro du mois de notre partenaire DSI, le magazine Défense et Sécurité Internationale, qui est aujourd'hui le hors-série numéro 71, consacré à la Russie, et qui est vraiment excellent et passionnant, je vous le recommande vivement. C'est comme le précédent sur la Chine, c'est vraiment un bilan très complet des capacités militaires russes, et c'est comme si c'était un sujet secondaire ou peu important en ce moment. Simplement, pour dire qu'on avait enregistré avant le confinement et avant que le numéro ne sorte, donc, et la parution a logiquement pris un peu de retard, puisque c'est évidemment très difficile en ce moment pour un magazine papier. Du coup, exceptionnellement, vous pouvez l'acheter en ligne sur le site de DSI qui s'appelle Arayon 24 News. Vous trouvez ça très rapidement et très facilement si vous tapez sur Google DSI Magazine. Et pour ceux qui le voudraient absolument en papier, ce que je comprends très bien si vous avez déjà toute la collection, je crois que bientôt, ils mettront en ligne un outil pour situer les points de vente physiques près de chez vous. Deuxième chose, juste avant le podcast, l'épisode lui-même est consacré à Djibouti avec Sonia Le Gourielec, et comme vous allez pouvoir l'entendre, il est évidemment enregistré par téléphone, ce qui fait qu'à un ou deux moments, on l'entend moins bien, alors j'ai réécouté, on comprend quand même tout à fait, mais évidemment c'est moins agréable et j'en suis désolé. D'une manière générale, ça va évidemment être comme ça pour les semaines qui viennent, tant qu'on ne peut pas reprendre les enregistrements physiques, puisque le podcast avec Adam Bachko était le dernier que j'ai pu enregistrer juste avant le confinement, c'était la veille même du confinement total. Donc, je vais faire au mieux, mais ce sera peut-être variable. C'est assez mystérieux pour tout vous dire, les qualités de connexion par téléphone, parfois c'est excellent et parfois c'est vraiment pas bon, sans qu'on puisse forcément l'expliquer très rationnellement, ni par le réseau, ni par le modèle du téléphone. Dans tous les cas, on va faire au mieux, pour assurer quand même la continuité podcastique, comme le dit André Loez dans son excellent podcast Paroles d'Histoire, qui est d'ailleurs aussi passé à deux ou trois par semaine, également sur des films et séries historiques, et que je vous recommande tout à fait. Mais donc, l'essentiel, c'est qu'au-delà des bunkers, on sorte des épisodes réguliers et entiers, les épisodes du mardi du collimateur, ce qu'on fera tant que ce sera possible. Merci donc à tous, et je vous laisse au podcast d'aujourd'hui avec Joseph Enrotin, puis Sonia Le Gourielec. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et avant le podcast d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Enrotin pour venir nous parler du numéro de ce mois-ci de DSI qui est donc un hors-série, donc le hors-série numéro 71 consacré cette fois à la Russie. Alors la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, c'était la Chine, désormais c'est la Russie. Alors expliquez-nous peut-être le contexte de ce hors-série, c'est-à-dire pourquoi, comment faire... Pourquoi aujourd'hui, disons, faire un retour, un bilan sur l'évolution de la puissance militaire russe ?
Alors, bonjour. Et effectivement, ce hors-série, il a une histoire au sens où en 2011, on avait déjà sorti un premier hors-série sur la Russie. Alors, en 2011, on est après la guerre de Géorgie, on est après le lancement des réformes dites Serdioukov, hein, donc de réformes en profondeur de l'armée russe. Et on s'est dit, tiens, 9 ans plus tard, à peu près 10 ans plus tard, où en sommes-nous ? C'est-à-dire, est-ce que ces réformes ont donné leurs fruits en termes de modernisation organique, en termes de modernisation capacitaire, de modernisation des matériels ? Comment est-ce que tout ça s'agence finalement avec l'activité russe stratégique ? Hein, bon, mais il y a eu la Crimée, il y a eu la mer d'Azov, il y a eu Le Donbass, il y a eu la Syrie, etc. Comment est-ce que tout ça s'agence? Est-ce que la Russie, finalement, qui ambitionnait en 2011 de redevenir une puissance militaire de premier plan, finalement, l'est-elle redevenue?
D'accord. Alors, du coup, vous passez en revue toutes les différentes armes. Alors, je vois notamment l'état de la il y a un article sur l'état de la marine russe, mais surtout il y a un article qui retient mon œil par celui que les auditeurs du podcast connaissent bien, par Michel Goya, qui fait une sorte de retour sur les expériences récentes des forces terrestres russes. Alors qu'est-ce qu'il en conclut? C'est-à-dire quel est le contexte exactement de ces forces terrestres russes, de cette armée de terre, et de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas depuis quelque temps?
Alors, en fait, le contexte, c'est que l'armée de terre russe, d'une part, a connu un processus de modernisation en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a une réforme qui a transformé nombre de divisions en fait en brigades, hein, donc il y a une réarticulation des forces. Dans le même temps...
Ça change quoi?
Ça change en fait que vous obtenez, enfin en tout cas c'était l'objectif de la réforme, et Michel montre bien qu'ils sont revenus un petit peu en arrière par rapport à cela, l'objectif c'était d'être plus déployable, plus facilement, en travaillant à l'échelle de la brigade d'une manière beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide qu'il ne le faisait à l'égard de la division auparavant. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, et ce que montre Michel, c'est que dans un certain nombre de cas, ils reviennent à la division, parce qu'ils se rendent compte qu'une brigade, c'est quand même parfois un peu léger. Ce qui est un petit peu le même type de raisonnement qu'on a eu ici en France aussi. Hein. On est revenu nous aussi à la division, et pas uniquement pour des logiques d'ordre administratif. Mais à côté de ces réformes-là, à côté de la modernisation des forces, il y a aussi leur implication sur le terrain. Donc, d'une part l'Ukraine, d'autre part le Levant. Et ce qu'il montre bien, c'est qu'en fait, derrière la réforme, il y a aussi un processus de réacquisition d'expérience et d'acquisition, tout court, d'expérience avec de gros volumes de forces qui ont été engagés par rotation successive, si vous voulez. Donc, ils se sont mis au contact des opérations militaires qui ont acquis une expérience concrète et pas uniquement en exercice. Et à côté de cela, évidemment, toute la suite d'exercices, des snap drills, hein, des snap exercises, des exercices surprises, si vous voulez, pour tester la mobilisation des forces. Bref, c'est tout un processus que nous montre Michel, qui est un processus, en fait, de remise en état de marche, si vous voulez, de forces qui étaient quand même, qui revenaient de loin. En Tchétchénie, l'affaire était complexe. On se souvient qu'en 2008, pendant la guerre de Géorgie, les communications étaient si mal embouchées qu'à un moment donné, un général russe a dû prendre le téléphone d'un journaliste pour pouvoir communiquer directement avec Moscou, ce qui est quand même très... c'est du bricolage de génie, mais ça reste du bricolage. Et donc finalement, après autant de temps, est-ce que l'armée russe a, oui ou non, réacquis de l'expérience? Et la réponse de Michel, clairement, est oui.
Oui, avec l'idée que du coup, c'est une acquisition d'expérience dans perspective de futur déploiement. Donc l'idée qu'on serait face à une montée en puissance progressive de l'armée de terre. Et est-ce qu'on trouve des choses équivalentes en ce qui concerne soit les forces marines ou sous-marines?
Oui, en l'occurrence, Benjamin Gravis revient sur la question alors, à la fois de l'aérien et du sous-marin pour montrer que si les processus de modernisation ont été notamment ralentis par les régimes de sanctions qui ont été imposés à la Russie après l'annexion de la Crimée, que malgré tout, il y a un certain nombre de programmes et de projets qui ont été effectivement mis en place. Et puis surtout, derrière les projets et les matériels, là aussi, il y a de la réacquisition d'expérience. Et c'est notamment le cas au niveau sous-marin, où on a vu depuis plusieurs années une multiplication du nombre de jours à la mer. Donc il ne s'agit pas uniquement de garder les bateaux à quai. Il faut les faire sortir. On ne peut pas entraîner les gens à la mer s'ils n'y vont pas. Et en l'occurrence, montre bien qu'il y a là aussi une sorte de cohérence entre, d'une part, la montée en puissance, alors qui est lente, qui est plus difficile que prévu, qui rencontre tout un tas d'obstacles techniques, etc. Mais tout ça est finalement assez normal. Il faut tout de même se souvenir que les seuls sous-marins, par exemple, que les Russes, pendant des années, ont pu fabriquer, c'était les classes Kilo, simplement parce qu'ils étaient habitués à les fabriquer. Et dès qu'ils ont dû sortir de cela pour faire les Lada, en l'occurrence, ils se sont complètement plantés, en fait. Il y a tout un tas de compétences qui avaient été perdues. Donc, maintenir les compétences qu'ils connaissaient, ça n'avait pas posé trop de problèmes. Par contre, en acquérir des nouvelles, c'était devenu plus difficile. Mais ils sortent, justement, les chantiers russes sortent petit à petit de cette logique-là. Eux aussi réacquièrent de l'expérience. et cette réacquisition d'expérience au niveau industriel, elle a également son pendant au niveau militaire, bah, par plus de sorties à la mer, des exercices plus complexes, avec des interactions également plus complexes avec d'autres marines, la chinoise notamment. Là où les Russes, dans les années 90-2000, ben, finalement, ne coopéraient pas avec grand monde, ne savaient pas interagir avec grand monde. Évidemment, derrière le fait de coopérer avec une marine comme la marine chinoise, il y a aussi la perspective de pouvoir mener des opérations en coalition, si le besoin s'en faisait sentir.
Ouais. Et enfin, dernier article qui a retenu mon attention, sur les forces spéciales russes. Alors, pourquoi ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier aux forces spéciales russes ?
Alors, il n'y a pas
une identité, ou des savoir-faire particuliers ?
Alors, il n'y a pas nécessaire. Il y a une gamme de savoir-faire qui est assez large. Il y a déjà une forme de debunking, si vous voulez, à faire au niveau des forces spéciales russes. Un certain nombre de spetsnaz, hein, c'est les termes qui reviennent le plus souvent. Un certain nombre de ces spetsnaz ne sont pas des forces spéciales, sont plutôt des forces d'élite. Et d'ailleurs, on le voit bien en Syrie, notamment, dans la manière dont elles se déploient.
C'est quoi la différence ?
Ah, la différence, c'est que vos spetsnaz, en fait, vont pouvoir être utilisés au plan opératif, en appui d'une opération militaire, là où des vraies forces spéciales, entre guillemets, viendraient plus intervenir en appui direct du niveau politique, et donc à la main directe du niveau politique. Mais donc, en fait, il y avait une espèce de debunking à faire, de commencer à classer finalement les différents types d'unités, de voir un petit peu aussi quelles sont leurs évolutions en termes de formation, en termes d'entraînement, en termes d'armement, parce que là aussi, ça a beaucoup évolué par rapport à l'époque, ne serait-ce que de la Tchétchénie, hein, du fin des années 90, début des années 2000. Et où on voit que, là aussi, et notamment à l'égard de la question syrienne et de l'engagement en Syrie, aussi bien des forces d'élite, type spetsnaz, etc., ont pu s'entraîner sur des logiques contre-terroristes, notamment. Michel le montre aussi, d'ailleurs. Hein, Michel Goya le montre également. Mais à côté de cela, ça n'empêche pas les Russes de continuer à travailler sur des savoir-faire de forces spéciales beaucoup plus spécifiques. Avec plus ou moins de bonheur, bah, comme on l'a vu avec le cas de l'affaire Skripal, où on a finalement des gens qui sont à la limite entre opérations spéciales et opérations clandestines, bah, qui vont tenter d'éliminer un ancien agent double en fait russe, mais en laissant des traces derrière eux suffisamment pertinentes, visibles, on va dire, que pour pouvoir être repérés par les services occidentaux.
Bon, donc ce numéro hors série numéro 71 qui va être en kiosque ces jours-ci, consacré, on l'aura compris, à l'état des forces militaires de la Russie. Merci beaucoup, Joseph.
Merci à vous.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Sandjublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir, même si bon, c'est évidemment par téléphone, Sonia Le Gourielec, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, spécialiste notamment de la Corne de l'Afrique. Je signale que vous êtes aussi, par ailleurs, secrétaire général de l'AEGES, dont on parle assez souvent. On a reçu récemment deux récipiendaires de ces prix de recherche avec Samuel Faure et Adam Bachko. Donc l'AEGES, qui est l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie, et auteur donc, pour l'émission d'aujourd'hui, d'un ouvrage récemment paru aux presses universitaires du Septentrion, intitulé « Djibouti, la diplomatie de géant d'un petit État ». Alors, Djibouti, c'est à la fois un sujet un peu familier pour beaucoup de militaires ou d'anciens militaires, même d'anciens expatriés français au sens large, et en même temps très étranger pour la plupart des gens, puisque c'est un petit pays qu'on connaît essentiellement en France pour être, disons, une base militaire française, et même la plus grosse base militaire française à l'étranger, la plus grosse force de présence, on en parlait récemment avec Elie Tenenbaum, avec près de 1500 militaires déployés. Mais en même temps, d'une part, la France n'est pas seule à Djibouti, on y reviendra, mais aussi, ce qui est très intéressant et que votre ouvrage permet très bien de faire, c'est justement de décentrer un peu le regard et de ne pas voir Djibouti seulement avec des yeux occidentaux, mais au contraire d'entrer, disons, dans le détail des logiques locales et du jeu que joue Djibouti, et jeu diplomatique qui joue plutôt très bien sous certains aspects, comme on le verra. Alors, le premier point quand même, Sonia, qui donne beaucoup de sa place et de son importance à Djibouti, c'est justement sa place, en fait, au sens de sa localisation géographique. Donc est-ce que vous pourriez nous dire simplement, alors évidemment c'est pas hyper radiophonique, et le plus simple serait que tout le monde se munisse d'une carte ou Google Djibouti pour l'avoir bien en tête, mais simplement où est Djibouti et pourquoi c'est une position extrêmement stratégique ?
Ah oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation dans des conditions spéciales, mais au moins ce qui permet d'assurer la continuité scientifique, j'ai envie de dire, parce que on parle beaucoup de continuité pédagogique, donc là vous permettez d'assurer cette continuité scientifique.
On va s'en sortir.
Alors effectivement, Djibouti, c'est un, on appelle ça, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif, on appelle ça un petit État en relations internationales. Donc Djibouti, c'est un petit État qui fait 23 000 km², près d'un million d'habitants, et qui est situé dans la Corne de l'Afrique, donc en Afrique de l'Est, entouré de l'Érythrée, de l'Éthiopie et du Somaliland, qui est encore en Somalie. Et ce qui est intéressant, c'est que Djibouti est à l'entrée du golfe d'Aden, entre la mer Rouge et l'océan Indien. Et c'est à la fois pour la région une pièce maîtresse dans le commerce régional. C'est une porte d'entrée pour toute la région. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le système international, contrôler Djibouti, contrôler l'espace autour de Djibouti, c'est contrôler aussi ce qu'on appelle une autoroute maritime du système international. Et donc Djibouti a toujours été l'enjeu de lutte d'influence entre puissances du 19e siècle encore aujourd'hui, comme on le verra. Et dans le bouquin, justement, je cite à un moment Gabriel Anoto, qui était un ministre français, qui dit que posséder la mer Rouge, c'est posséder le monde. Et c'est un petit peu ces jeux d'influence qu'on voit aujourd'hui se mettre en œuvre ou encore dans la région. Et c'est pour ça que Djibouti est une pièce maîtresse.
Oui, on va le dire aussi, on va peut-être introduire le nom tout de suite. C'est situé sur ce qu'on appelle le Bab el Mandeb, c'est-à-dire, en fait, c'est ce goulet d'étranglement vraiment qui permet de contrôler à une certaine échelle le passage entre la mer Rouge et la mer d'Arabie et au-delà l'océan Indien.
Alors, exactement.
Faut peut-être dire aussi tout de suite, j'ai commencé à l'évoquer, mais il y a aussi un peu toujours une difficulté que vous évoquez dans le regard qu'on porte dessus, probablement en raison de l'épaisseur, ne serait-ce qu'historique, du passé colonial, et vous décrivez ça très bien dès l'introduction, c'est-à-dire, d'une certaine manière, on est très plein de clichés sur cette région-là, sur le côté rocher, désert, écrasé par le soleil et qui vient plonger dans la mer. Et votre objet, dans une certaine mesure, c'est précisément d'aller au-delà de ça et de ne pas voir ça seulement sous, disons, des contours un peu orientalistes, de pénétrer dans des logiques internes de cet État, au-delà de l'image assez fermement enracinée quand même.
Exactement, tout le monde en France connaît un peu Djibouti, a eu de la famille qui a peut-être fait escale à Djibouti, qui connaît des gens qui ont la famille militaire qui ont pu aller à Djibouti, et ou alors on connaît la région par la littérature. Et on me cite souvent Montfred, Rimbaud, c'est très bien, c'est très intéressant, mais c'est un ancien monde, j'ai envie de dire, c'est Djibouti du 19e siècle, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, et puis dans ce regard qu'on porte parfois sur cette région, on n'y voit pas les hommes. On n'y voit pas les humains qui y résident, on n'y voit pas les jeux d'acteurs sur place, et ça se transcrit également dans la façon dont on travaille sur cette région, puisqu'on parle beaucoup des acteurs internationaux dans la région et très peu des acteurs régionaux. Un peu plus de l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisée, mais sinon très peu de ces acteurs. Or, ils ne sont pas passifs. Ils ont un agenda, ils ont un programme, ils ont une stratégie, et c'est intéressant de l'étudier et de savoir comment parfois aussi ils se jouent de nous. Alors c'est vrai que ce sont des petits États, Djibouti est un petit État en relations internationales, donc ils sont toujours les perdants ou les deuxièmes dans des rapports de force avec les grandes puissances. Néanmoins, ils ont des stratégies. Et c'est un peu ça ce que j'entendais en fait par le renversement du regard que je voulais avoir dans l'ouvrage. Et c'est pour ça que je rappelle un petit peu ces hommes qui vivent sur place, ce qu'il y avait avant la colonie. Et puis pour changer de Montfred et Rimbaud, que j'aime beaucoup par ailleurs, j'essaye un peu plus de citer aussi les grands poètes djiboutiens, les grands romanciers djiboutiens, et quel est leur regard à eux sur l'endroit où ils vivent.
Ouais, mais alors justement, on a bien compris qu'il fallait le mettre à distance, mais on va quand même le détailler un peu, ce passé colonial, en particulier français, parce qu'il détermine aussi très largement les contours même, et même les dimensions de Djibouti. Alors, On peut remonter encore plus loin, mais évidemment, disons, un point central, c'est le 19e siècle. Même si, bon, par sa position naturelle que vous avez rappelée, ça a toujours été un endroit stratégique en tant que goulet d'étranglement, mais globalement, c'est au 19e siècle que les regards occidentaux se tournent vers la zone et qu'on a une implantation de commerçants européens en particulier.
Mmh. Alors, on peut avoir deux dates en tête, c'est toujours difficile comme ça à l'oral, c'est que la France s'installe véritablement en 1862 à Djibouti et qu'elle va créer la côte française des Somalis en 1896. Et on peut se demander pourquoi la France s'intéresse à cette zone.
Alors, il faut peut-être ajouter une troisième date là-dedans, oui, qu'on peut directement évoquer. C'est les travaux de percement puis l'ouverture en 1869 du canal de Suez. C'est-à-dire, oui, que soudainement, Djibouti commande pas seulement la connexion entre les pays autour de la mer Rouge et le reste du monde, mais avec l'ouverture du canal du Suez, Djibouti commande le passage entre la Méditerranée, donc l'Europe, oui, et au-delà, et toute l'Asie, quoi.
Exactement, mais pourtant, de façon assez surprenante, la France ne va pas s'intéresser directement à Djibouti dans les années 60 à cause de Suez. Ça va venir beaucoup plus tard, étonnamment. Parce qu'au départ, vous avez quand même une présence des Turcs, des Égyptiens, mais les Français pensent qu'ils sont suffisamment puissants et ils possèdent suffisamment le canal de Suez pour ne pas avoir à s'intéresser à plus bas sur la mer Rouge, à avoir d'autres possessions. Et ça va plutôt être la conflictualité, j'allais dire, et la concurrence avec les Britanniques qui vont pousser à cette présence française.
Oui, parce qu'on va rappeler que, évidemment, le canal de Suez est en très grande partie une œuvre française autour de Ferdinand de Lesseps. Mais alors, du, oui, coup, effectivement, mais cette rivalité entre puissances européennes, elle s'insère sur une région qui a déjà des acteurs à l'époque, et c'est une région qui est à l'époque contrôlée par l'Empire éthiopien, qui résiste, mais qui, mine de rien, comme c'est le cas dans à peu près toute l'Afrique à la fin du 19e siècle, qui se fait grignoter malgré tout par les appétits des grandes puissances européennes.
Exactement. En fait, on a une zone qui était déjà très dynamique. C'était une zone très dynamique. Vous aviez des commerçants, il y avait des échanges entre la Corne, le Golfe, l'Inde, le Mozambique, des échanges de café, d'ivoire, d'armes et d'esclaves, puisque je parlais de Monfrède et de Rimbaud, ils sont connus aussi pour ça. Mais au départ, les luttes d'influence vont être surtout entre, avec cette présence égyptienne, cette présence turque qui va succéder, et les annexions restent assez souples, j'allais dire, puisque les pouvoirs centraux sont très loin, donc c'est le pouvoir local qui reste très fort. Mais finalement, c'est vraiment à partir des années 1880, donc après quand même le canal de Suez, que les ambitions turques et égyptiennes vont être concurrencées par les impérialismes européens. Certes par le contexte d'ouverture de Suez, mais aussi on est dans une période où vous avez le congrès de Berlin en 1885 qui va définir officiellement le partage du continent. Et c'est à partir de là qu'on va voir effectivement les Anglais, les Italiens et les Français se concurrencer dans la région. Alors les Anglais étaient déjà présents et s'intéressaient au coin depuis un petit moment. Ils étaient présents à Aden. Aden, c'est dans ce qui est aujourd'hui le Yémen, donc de l'autre côté du golfe d'Aden. Ils vont être présents à ce qui est aujourd'hui le Somaliland, plutôt pour des raisons de ravitaillement en bétail. Ils sont présents parce qu'il faut contrôler cette route maritime entre l'Égypte et l'Inde. Les Italiens vont succéder aux Turcs et ils vont être présents sur la côte africaine, ce qui est actuellement l'Érythrée, au-dessus de Djibouti. Et la présence française, au départ, elle est vraiment infime. Hein. C'est quelques personnes.
Ouais, justement, ce que j'allais vous demander, c'est, voilà, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est que tout le monde s'intéresse à la région. On a bien compris qu'elle est stratégique. Toutes les puissances européennes prennent pied, disons, un peu partout autour de ce Babel Mandeb. Et du coup, comment est-ce que c'est la France, qui d'ailleurs n'est pas la première ni la plus investie sur la zone au début, qui réussit à emporter, oui, le morceau, finalement?
Eh bien, ça va être... Alors, c'est en 1857 que déjà un médecin va dire à Napoléon III il y a quelque chose à faire, il y a un intérêt pour les Français sur cette côte en particulier, d'une part parce qu'il y a Suez, d'une part parce que c'est une route vers l'Asie, d'une part parce que les Britanniques sont présents, on ne peut pas les laisser tout seuls dans le coin, parce qu'il nous faut une escale. La Réunion et Mayotte seront moins importants avec l'ouverture de Suez, parce qu'il faut pouvoir s'approvisionner en eau, en vivres, en carburant. Donc ça, déjà, ça va être des arguments importants et qui vont faire que les Français vont arriver en 62 à Djibouti. Mais ce qui va vraiment être un déclic, c'est deux événements. C'est principalement que la France avait un mouillage à Aden qu'elle payait très cher aux Anglais et que les Anglais ont ce mouillage à Aden en 1870 du fait du conflit entre la France et l'Allemagne et parce que les Anglais souhaitaient rester neutres, et en 1883 lors de la campagne de Tonkin. À chaque fois, les Anglais ont dit on veut être neutre et ont refusé ce mouillage aux Français. Donc c'était vraiment un intérêt stratégique, on avait ce besoin. Et ensuite, parce que tout simplement, ce sont, je disais, ce sont des individualités qui se sont positionnées sur la côte djiboutienne. Par facilité, je dis Djibouti, hein, mais ce n'était pas le nom à l'époque. Et donc, en fait, il fallait une autorité protectrice pour ces maisons commerciales françaises qui s'intéressaient aux richesses éthiopiennes et donc se positionnaient sur cette côte.
D'accord. Et alors, du coup, à quel moment est-ce que ça se matérialise, est-ce que ça se concrétise? À quel moment est-ce qu'il devient, disons, avéré que Djibouti, c'est pour la France, quoi?
Alors, ça va vraiment être au début des années 1880 que la présence sera plus forte. En 84, la France va envoyer Léonce Lagarde, qui est très connu à Djibouti, comme commandant à Obok. Obok, c'est une ville au nord de Djibouti aujourd'hui. Et on va se rendre compte que l'avitaillement à Obok coûte très cher. Donc petit à petit, on va se déplacer dans Djibouti, on va passer des accords avec des locaux à Tadjoura et dans ce qui va être la future capitale, Djibouti, en 88. Et en 96, en 1887, 16, pardon, sera créée la colonie française des Somalis, la CFS, officiellement. Donc c'est pas au départ, c'était une enclave maritime, c'était une autorité de protection pour les maisons commerciales présentes sur place, mais petit à petit, Djibouti va devenir une porte d'entrée vers toute la Corne de l'Afrique.
Oui, bah alors ça, c'est, il faut le dire maintenant, c'est que évidemment, enfin, c'est ça qui va faire beaucoup de la prospérité de Djibouti. Ça va être, disons, l'implantation militaire, ça va être aussi, disons, le côté porte d'entrée pour toutes les marchandises de l'Est de l'Afrique. Mais justement, est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot en fait, de ce qui fait vivre cette colonie pendant 50, 60, 70 ans même, puisque c'est seulement, on va revenir dessus, mais c'est seulement dans les années 70 que Djibouti sera décolonisé.
Ce qui va faire vivre la côte, à la fois avant la colonisation et après la colonisation, ça va vraiment être les échanges de marchandises. Cette côte africaine, elle débouchait maritime des grandes routes caravanières qui viennent justement exporter les grandes richesses, on disait à l'époque les richesses éthiopiennes. Vous voyez, ça peut paraître surprenant avec l'image que certains peuvent avoir aujourd'hui de l'Éthiopie, mais c'était vraiment l'objectif. Et donc, cette installation française à Djibouti va permettre effectivement de développer le port de Djibouti qui sera à la fois le cœur du développement du pays et à la fois son lien, son cordon ombilical avec l'Éthiopie, puisqu'on va développer dans la foulée un chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti. Et donc, ça va lier historiquement les deux pays. Et ce sera la fonction, pendant très longtemps, la fonction principale de Djibouti. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, le projet chinois sur lequel on reviendra sûrement, reprend finalement ce projet et cette fonction de Djibouti.
Ouais. Alors l'étape d'après qui est immédiatement intéressante, c'est évidemment toute la phase de décolonisation. Alors d'abord parce que Djibouti a accédé à l'indépendance assez tard, ce sera intéressant de se demander pourquoi, mais aussi parce que c'est au moment justement des décolonisations dans la région, notamment de la région de la Somalie actuelle, c'est déjà le moment où on voit apparaître une problématique qui est la grande problématique régionale pour Djibouti, qui est la rivalité entre deux de ses grands voisins que sont la Somalie et l'Éthiopie.
Oui, tout à fait. À la fois une rivalité entre ces deux voisins qui va se cristalliser sur le problème de l'indépendance de Djibouti et aussi que c'est l'indépendance de Djibouti et la question, la problématique de l'indépendance de Djibouti va être un catalyseur des oppositions entre l'Éthiopie et la Somalie. Pour l'expliquer très clairement, alors Djibouti est indépendant en 1977. Vos auditeurs comprendront que c'est assez tard, alors que les indépendances en Afrique sont surtout dans les années 60. Mais les discussions, les débats sur la décolonisation de Djibouti vont débuter en 1958. Pendant 20 ans, on a des débats et des discussions sur l'indépendance de Djibouti. Alors, c'est à la fois long pour des raisons internes, qui je pense vont pas directement intéresser les auditeurs, mais aussi pour des raisons externes qui sont liées à ces velléités expansionnistes de l'Éthiopie et de la Somalie. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Éthiopiens, Au départ, ils sont plutôt dans une situation statu quo. Si ce sont les Français qui sont présents, au moins, il n'y aura pas de menace, pense au Mali ou panarabique sur l'Éthiopie. Et ils vont vite évoluer en disant, OK, si les Français partent, il faut que Djibouti nous revienne. Et pour dire ça, ils vont s'appuyer sur un accord...
Parce que, simplement, si les gens n'ont pas une carte sous les yeux, en fait, il y a un truc très simple, c'est en fait l'Éthiopie n'a pas accès à la mer. C'est un grand truc. L'Éthiopie est isolée de la mer par l'Érythrée, la Somalie et Djibouti. Donc s'il y avait un Djibouti qui tombait, disons, dans l'escarcelle somalienne, c'était vraiment une clôture, littéralement, autour de l'Éthiopie, quoi.
Exactement. En fait, peut-être les gens en tête, savent qu'il existe un État qui s'appelle l'Érythrée. Mais pendant très longtemps, l'Érythrée, qui est le nord de l'Éthiopie, a appartenu à l'Éthiopie. C'était l'Éthiopie. Et c'était une zone qui a été colonisée par les Italiens. Et à la fin du 19e siècle, encore une fois. Et les Italiens ont essayé d'aller plus loin, de s'étendre dans le reste de la Corne de l'Afrique, et ils ont été arrêtés par les Éthiopiens lors de la bataille d'Adwa. Alors, pour les étudiants, c'est une bataille qui est très connue, parce que c'est la première fois que des troupes africaines arrêtent des troupes européennes. Et c'est quelque chose qui est encore fêté tous les ans en Éthiopie. Et donc, on est resté dans une position de statu quo où les Italiens ont colonisé l'Érythrée. Les Français étaient à Djibouti, mais avec des accords très forts entre les différents gouvernements français et l'empereur éthiopien. Et pour l'instant, ça fonctionnait à peu près. Quand il a été question du départ des Français, l'Érythrée, donc là on est dans les années début des années 60, l'Érythrée est retombée sous l'escarcelle de l'Éthiopie. Parce qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait des possessions allemandes et italiennes dans le monde? Et ben, cette question de l'Érythrée s'est posée. Est-ce que ça va être une protection britannique? Est-ce que l'ONU doit faire une tutelle? On s'est posé beaucoup de questions. Et pendant un temps, l'Érythrée a été avec un statut spécial au sein de l'Empire éthiopien. Et en 62, cet empire, enfin ce statut spécial est tombé. L'empereur a en quelque sorte envahi le reste de l'Érythrée. Il n'avait plus de drapeau, de parlement. Et les Érythréens sont rentrés dans une lutte de libération, une guérilla qui a duré près de 30 ans. Et donc, on est dans cette période-là où on est en même temps dans des discussions sur l'indépendance de Djibouti. Et pour les Éthiopiens, il est hors de question de perdre cette influence qu'ils avaient sur cette région, sur cette zone. Donc, l'empereur éthiopien était très proche de Gaulle. Il y a beaucoup d'articles de presse qui montrent qu'il y a de très bonnes relations entre eux. Et donc, les Éthiopiens étaient au début pour une présence française, puis ça a évolué. Ils ont dit, non, si les Français partent, ça nous revient. Parce qu'on a signé un accord à la fin du 19e siècle qui rappelle qu'il y a des droits d'héritage historique de l'Éthiopie sur un lac qui se situe, le lac Assal qui est à Djibouti, et qu'il y a une priorité de cession par la France de ce territoire à l'Éthiopie.
Donc, non, mais alors, on va rajouter aussi que c'est aussi que tout stratégique que soit Djibouti pour la France, et on a très bien rappelé, enfin on a déjà rappelé pourquoi, mais de l'autre côté, c'est aussi un territoire qui perd de son intérêt à cette époque-là, en raison d'un fait auquel on pense pas souvent, qui est la guerre des six jours, en 1967, qui amène une fermeture totale du canal de Suez pendant 8 ans, donc jusqu'en 1975. Donc en fait, ça fait 8 ans où Djibouti, qui avait gagné beaucoup de son intérêt, de sa commande stratégique par le trafic qui venait du canal de Suez, en fait, tout ça tombe à zéro pendant un certain temps, et du coup, ça devient de plus en plus... Bon, disons un point d'appui qui coûte cher et qui est de moins en moins stratégique.
Exactement. Et qu'en plus, on ne peut pas quitter parce que du coup, il y a une crise économique du fait de la perte de cette rente liée au canal de Suez. Donc, on est dans une situation un peu un entre-deux compliqué. Le reste des États africains ont leur indépendance et se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de ce bout de territoire? Alors, la question va être tout simplement posée aux Djiboutiens. Dans la côte française des Somalies à l'époque, puisque bah, vous l'avez compris, donc il y a une opposition entre Éthiopiens et Somaliens sur la destinée de ce territoire, et un référendum va être organisé en fait en 67 pour proposer aux Djiboutiens l'indépendance ou le maintien avec un statut modifié de la colonisation. Honnêtement, il semblerait que les résultats sont très contestés. Il semblerait qu'il y aurait peut-être eu quelques petits trafics, mais les résultats portent sur le maintien du lien avec la France et la modification, le statut modifié, c'est que la côte française des Somalies, certes, n'est pas indépendante, mais devient le territoire français des Afars et des Issa, les deux populations qui peuplent Djibouti, avec de nouvelles institutions, une chambre des députés, un conseil de gouvernement, etc. Et on retourne sur cette question, bah, on repousse finalement cette indépendance qui va arriver bien plus tard en 77, toujours en arrière-fond cette opposition qui existe entre l'Éthiopie et la Somalie dans la région.
Mais du coup, parlons-en, comment est-ce que Djibouti accède à l'indépendance en 77 et en même temps ça, et en même temps, comment est-ce que Djibouti réussit à résister aux, disons, aux appétits à la fois somaliens et éthiopiens directement dans la foulée?
C'est tout le paradoxe, on pourrait dire que c'est presque une indépendance sous dépendance. vous avez d'un côté l'acteur éthiopien qui estime que le départ de la France, avec le départ de la France, le territoire Djibouti lui revient, et donc c'est un accès à la mer supplémentaire. Et de l'autre côté, les Somaliens, qui sont dans une politique très nationaliste de création de ce qu'on appelle la Grande Somalie, donc réunir dans un même État tous les peuples somalis de la région. Et ça, c'est à la fois une menace pour le Djiboutien, qui est, enfin, une menace, ça dépend du point de vue, mais c'est à la fois, ça vise le territoire djiboutien où vous avez une partie de la population somalie, mais ça vise aussi la partie du territoire éthiopien. Et ça, ça plaît pas beaucoup aux Éthiopiens. Donc, vous avez des escarmouches entre les deux pays qui vont exploser en 77 dans un conflit qui est très connu, qui s'appelle la guerre de l'Ogaden, entre l'Éthiopie et la Somalie, justement pour la possession de ce territoire qui s'appelle l'Ogaden, à l'est de l'Éthiopie. Et c'est très connu des étudiants en relations internationales et histoire des relations internationales.
Donc on va dire que c'est un territoire donc à l'est de l'Éthiopie, à l'ouest de la Somalie, mais donc c'est au sud de Djibouti, quoi, ce territoire contesté autour duquel il va y avoir cette guerre.
Exactement. Et c'est très connu puisque bah, vous avez un renversement d'alliance en pleine guerre froide, puisque l'URSS soutenait la Somalie, les Américains soutenaient l'Éthiopie, et bien vous avez un renversement, les Soviétiques vont soutenir l'Éthiopie et inversement pour les États-Unis. Et donc, ben, l'indépendance de Djibouti, elle doit se faire dans ce contexte de conflictualité régionale et de menaces d'annexion par les deux voisins. Et c'est à ce moment-là que le référendum a lieu et que la France déploie sa plus grande opération aéronavale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, nous avions deux porte-avions qui se sont projetés au large de Djibouti pour surveiller que le référendum se passe bien et que les deux grands voisins n'aient pas de volonté de s'approprier le territoire. Et puis, je disais une indépendance dans la dépendance, puisqu'au final, les Français ne sont pas vraiment partis. Et vous avez eu toujours ce parapluie sécuritaire français et une base française sur place que les Éthiopiens d'ailleurs demandaient au début.
Ouais, donc qui va garantir, on comprend que c'est disons avec cette protection, avec ouais, avec c'est ce que on en parlait avec Elie Tenenbaum, c'est la fonction de protection, c'est le fait que disons la présence militaire française limite les appétits autour. Alors on va avancer, mais il faut quand même dire que évidemment les années 90 sont une époque extrêmement troublée dans la région. Il y a la guerre civile en Somalie.
Surtout le continent même.
Oui, mais bon,
c'est la fin de la rente stratégique, vous avez des crises économiques un peu partout sur le continent, et c'est vraiment une décennie chaotique sur le continent africain, et dans la Corne de l'Afrique aussi, où vous avez de nouveaux États et vous avez des changements de régime.
Oui, donc il y a la guerre civile en Somalie, il y a la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée entre 1997 et 2000. Donc voilà, la question c'est comment est-ce que Djibouti se sort de tout ça, parce qu'il faut, on l'a déjà dit, mais on va quand même le rappeler, en regardant une carte, c'est quand même très très frappant, quoi. C'est vraiment totalement le petit poussé de la région et de la zone, qui est minuscule par rapport à ces deux et même trois grands voisins, puisque l'Érythrée est aussi nettement plus grand.
Tout à fait. Alors, au début des années 90, l'Érythrée, en plus, va être en conflit à peu près avec tous ses voisins au moment où ils accèdent à l'indépendance. L'Éthiopie a un changement de régime, le fameux Derg va tomber, et donc il va être remplacé par... notamment par Malala Zenawi, le premier ministre, l'historique premier ministre qui est décédé en 2012. Et vous avez une nouvelle constitution, la mise en place d'une fédération, on parle même de fédéralisme ethnique. Vous avez la chute de Siad Barre en Somalie et le début d'une guerre civile. Et on se pose la question, effectivement, comment Djibouti peut réussir à être stable dans cet environnement? Alors, il l'a pas été totalement, en fait, hein, puisqu'il y a eu une guerre civile au début des années 90 à Djibouti entre les deux populations, Afar et Issa. Et ça a été été aussi un des premiers accros, je le présente souvent comme ça, dans la relation entre Djibouti et la France, puisque les Djiboutiens ont estimé que les Français n'avaient pas été suffisamment loyaux envers eux, qu'ils n'ont pas mis en œuvre l'accord de défense, estimant qu'ils étaient attaqués de l'extérieur et que ce n'était pas une guerre civile. Et les Français n'avaient pas la même analyse du conflit.
Ouais, alors on va, disons, compléter le tableau de cette instabilité structurelle dans la région. Il y a aussi, faut dire un mot de la lutte contre le terrorisme islamique dans la région et en Somalie notamment, qui a été une très grande préoccupation dans le siège du 11 septembre, mais qui est un danger qui, d'ailleurs, selon vous, était relativement surévalué. On s'est beaucoup fixé là-dessus dans la région et Djibouti en a profité. Enfin, on reviendra sur cette dynamique-là, mais ça a été une grande préoccupation régionale. Dans les années qui ont suivi.
Oui, parce que dans les années 90, on a eu aussi les attentats contre les ambassades américaines au Kenya, à Dar es Salaam. On a eu l'USS Cole. Donc, il y avait beaucoup de questionnements, effectivement, sur la possibilité de voir, même après avec la guerre en Afghanistan, de voir des combattants fuir l'Afghanistan, le Pakistan et trouver refuge dans la Corne de l'Afrique. Donc, ça a été une véritable inquiétude qui a fait que les Américains ont déployé aussi une opération navale au large de la Corne de l'Afrique. Et c'est aussi une opportunité, entre guillemets, pour les acteurs locaux, pour certains acteurs locaux, pour se positionner comme des puissances régionales, des alliés des États-Unis dans ce qu'on appelait la guerre globale contre le terrorisme à l'époque. Et c'est notamment le cas de l'Éthiopie, qui a été vu comme vraiment le pilier dans la région.
Si on entre maintenant un peu rapidement dans le détail de l'état djiboutien lui-même, faut peut-être dire un mot juste du fait que, c'est une démocratie, de façade, ça n'en reste pas moins un pays où à peu près tout le pouvoir est entre les mains du président, qui est donc Ismail Omar Guelleh, qui capte par ailleurs largement, avec sa famille et son réseau, les ressources de l'État. Donc, pour le dire clairement, il y a des institutions sur le papier. Mais de toute façon, c'est toujours un peu le cas, mais ça n'en reste pas moins un régime relativement autoritaire et corrompu, avec par ailleurs un niveau de développement de la population qui est extrêmement faible.
Alors oui, la plupart des centres d'analyse sur la démocratie dans le monde classent Djibouti dans les États autoritaires. Le régime djiboutien lui-même, je pense que c'est pas forcément voulu, mais lui-même dans son plan de développement qui s'appelle Djibouti 2035 explique qu'ils ne sont pas encore un état de droit et qu'il y a beaucoup de chemin à faire, que c'est en construction, etc. etc. Donc on ne peut pas classer Djibouti dans les états démocratiques et il est évident que tout ce que je présente comme une activité diplomatique parfois originale, comme une façon intelligente d'avoir su tirer profit des évolutions du système international, piraterie, terrorisme, on y reviendra, c'est aussi une façon pour le régime d'assurer sa survie, de sécuriser ses soutiens politiques, économiques, militaires des différentes grandes puissances qui sont sur place. C'est une forme de chantage international. Ça, c'est évident. Et il reste une pièce centrale. Le port est une pièce centrale. Les activités du port dans le commerce régional, dans l'activité et la réémergence de l'Éthiopie. Et donc, il est difficile, effectivement, de pouvoir critiquer la gouvernance du pays, si, effectivement, c'est un État très centralisé. Très concentré autour de la figure du président.
Oui, mais alors là où c'est justement très intéressant et où ça fait la connexion avec le cœur de notre sujet, c'est que cette dimension autoritaire, elle est retournée sous l'angle de la stabilité et elle est vendue comme une ressource aux puissances qui installent des bases, notamment militaires là. Effectivement, si on fait le bilan dans la région, quand il s'agit. Si on veut implanter une base militaire et navale dans la région, bon, l'Éthiopie n'a pas accès à la mer, la Somalie est un état failli et en lambeaux. et l'Érythrée est une dictature atroce depuis le début des années 2000 et depuis la guerre avec l'Éthiopie. Donc effectivement, sous ce point de vue-là, tout autoritaire qu'il soit, il y a effectivement une stabilité qui peut être alléchante pour des puissances internationales qui cherchent à avoir une base militaire là et qui cherchent donc de la stabilité plus que peut-être de la démocratie ou un niveau de développement élevé.
Et le régime l'a bien compris. Alors, l'Érythrée, il avait été question au départ que les États-Unis hésitaient entre l'Érythrée et Djibouti pour positionner leur base au début des années 2000. Vu l'évolution du régime érythréen, ça paraissait guère possible. Donc, ils se sont installés à Djibouti, où déjà, il y avait une présence française, qui avait une sécurité assurée. Mais c'est vrai que Djibouti joue beaucoup, enfin, c'est ce qu'ils vendent également. Ce côté havre de paix, ce côté qu'ils expliquent qu'ils sont un carrefour entre trois continents, qu'ils sont l'œil au sein du cyclone, il y a des conflits partout autour dans la région, et ils vendent de cette stabilité. Ça, c'est évident, et c'est ce qui a pu attirer aussi les différentes bases, puisque vous avez cinq bases aujourd'hui dans le pays.
Ouais, bah alors donc on va le dire. De ce point de vue-là, on entre clairement dans une nouvelle phase depuis 2002. Ce que je veux dire, c'est que depuis l'indépendance en 1977, vous l'avez dit, mais bon an mal an, et même s'il y a effectivement des tensions dans les années 90, Djibouti est très clairement sous l'influence très directe de la France.
Oui,
presque un protecteur informel. Mais donc la nouvelle phase...
Elle a cessé de diminuer, elle reste très importante. Oui.
Voilà, mais du coup, le nouveau chapitre, c'est à partir de 2002... et donc de l'implantation d'une base militaire américaine. Donc d'abord, on va revenir ensuite sur l'autre côté, mais dites-nous peut-être pourquoi les États-Unis veulent s'implanter là, à ce moment-là, et c'est évidemment, quand on voit la chronologie, c'est évidemment difficile de le séparer des tendances interventionnistes de l'époque des États-Unis dans la région, et notamment en Irak.
Oui, alors là, on arrive dès la guerre d'Irak, dès la guerre en Irak au début des années 90 et la deuxième guerre, les Djiboutiens, les Américains ont pu voir que les Djiboutiens étaient plutôt de leur côté, et en 2003 déjà, le Département d'État disait que Djibouti était un fervent partisan de la guerre contre le terrorisme. Donc, ils savaient qu'ils avaient à cet endroit-là une zone sécurisée qui permettait d'être en arrière-plan aussi du Golfe arabo-persique. C'était le seul endroit, le seul port en eau profonde de la région, donc c'était un point d'appui important pour les unités de guerre qui étaient déployés un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient et
Oui, c'est ça, parce qu'on va le dire, on va le dire aussi, c'est aussi un moyen, être là, c'est aussi un moyen de pas être, enfin, d'avoir un point d'appui par rapport au Golfe Persique, et parce que le Golfe Persique, mine de rien, on est toujours sous l'œil de l'Iran, qui contrôle très largement ces eaux-là. Avoir un point d'appui à Djibouti, ça permet d'être de l'autre côté de la péninsule arabique, mais donc un peu plus loin et un peu plus en sécurité par rapport à ça.
Ça permet d'avoir un regard sur tout le nord, donc à la fois l'Arabie Saoudite, aujourd'hui ce qui se passe au Yémen, avant et encore aujourd'hui ce qui se passe dans le Golfe d'Ormuz, en Iran, et ça permettait d'avoir un regard aussi sur ce qui se passait en Afghanistan, au Pakistan, et les gens qui pouvaient fuir ces régions. Ça, clairement, c'était une arrière-base, c'était un porte-avions naturel que d'autres pays ont après privilégié de toute façon.
Ouais, et alors, donc, base américaine qui s'implante, alors elle s'implante quand exactement
c'est... 2002, non, mais oui.
D'accord. Mais surtout, c'est aussi, peu après, une position, un rôle qui prend beaucoup d'importance, avec le développement à la fois des risques sécuritaires dans la région, et puis surtout de la piraterie dans le golfe d'Aden et en mer Rouge, qui monte en flèche à partir de 2005, ce qui fait que tout le monde s'investit beaucoup là-dessus, parce que dès qu'on commence à toucher aux lignes de communication de la mondialisation, ça fait réagir très fortement. Et naturellement, Djibouti a un rôle de base naturelle pour cette lutte-là contre la piraterie, du fait de sa situation géographique.
Oui, alors ça c'est le titre du livre, La diplomatie de géant d'un petit État. C'était pas tant une hagiographie pour le régime djiboutien que pour justement expliquer que c'était intéressant de voir comment un petit État a pu ainsi profiter de toutes les évolutions du système. Le terrorisme, ils ont su se proposer aux États-Unis d'être une base dans leur lutte. La piraterie, il y avait aussi le Kenya, et le Kenya s'est positionné sur de nombreuses choses dans le cadre de la lutte contre la piraterie, mais finalement, toutes les bases ont été à Djibouti. Après, il y a eu le Yémen et les routes de la soie. Dans le cadre de la piraterie, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à attirer quand même les Japonais, qui, selon leur constitution, ne peuvent pas déployer des troupes en dehors de leur territoire. Néanmoins, comme une grande partie des navires ou en tout cas des produits qui sont sur les navires qui passent dans le golfe d'Aden sont souvent japonais, c'était une menace économique très importante pour le Japon qui avait au départ mis ce qu'ils ont appelé une installation militaire. C'est que très récemment qu'ils ont vraiment mis le mot « base ». Et avec l'installation de la base chinoise, ils l'ont même agrandi. Donc, vous avez eu une base japonaise à Djibouti, vous avez une base italienne, et vous avez une présence, effectivement, des forces de l'opération européenne Atalante de lutte contre la piraterie, avec sur place, vous croisez encore aujourd'hui des Espagnols, des Allemands. Et donc, tout ce petit monde se retrouve non pas dans 20 000 km², mais dans la capitale, Djibouti. Parfois avec des oppositions aussi entre eux. Mais c'est la piraterie qui a été vraiment l'appel d'air, j'allais dire, et une fenêtre d'opportunité très forte pour Djibouti pour se positionner comme le phare de la mer Rouge qu'il rêve de devenir.
Ouais, mais alors du coup, entrons un peu plus dans le détail de ça. C'est justement, la question, c'est ce jeu-là en précis quoi, que joue Djibouti par rapport à ses grandes puissances. Alors, d'abord, dans le choix de celle-ci, enfin de ces puissances, alors il y a toute la coopération internationale, plus de 60 pays, etc. Mais sur, bon, pour ce qui concerne les bases, vous l'avez déjà dit, il y a 5 bases principales, enfin surtout 3 et puis 2 autres. Mais donc c'est la France, les États-Unis, la Chine, et puis le Japon et l'Italie. Donc clairement, si on voit le choix de celle-ci, clairement ce sont plutôt des puissances, disons, alignées sur les États-Unis occidentales, mais en même temps vous décrivez qu'il y a un réel souci, très nettement, de la part de Djibouti, de ne pas rester accroché à un camp, de ne pas être trop dépendant, oui, disons, des États-Unis et de leurs alliés.
Alors, je ne sais pas si ça a bien fonctionné, mais effectivement, le premier président djiboutien, au moment de l'indépendance, avait défini ce qu'il appelait une neutralité positive. Et ça, c'est un comportement classique des petits États. Ils ne peuvent pas être dans un camp ou dans un autre, surtout dans une région comme la Corne de l'Afrique. Donc, c'est de se dire, je suis ni avec l'un ni avec l'autre. Dans les faits, je ne sais pas si ça a beaucoup marché, mais c'est ce qui explique qu'ils se sont positionnés dans la lutte contre la piraterie pour attirer toutes les puissances internationales. Alors là, c'était principalement des occidentales, mais dès lors, dès la lutte contre la piraterie, ils ont commencé à discuter un petit peu plus aussi avec les Chinois. Et avec les navires chinois. Moi, quand j'allais à Djibouti, je voyais des navires chinois à côté des navires japonais. Donc, ça a déjà été une première ouverture qui peut-être explique aussi aujourd'hui la présence chinoise à Djibouti. Et à chaque fois, effectivement, ils ont eu à cœur, si les Américains s'installent à Djibouti, il faut qu'on montre qu'on soit neutre. Et donc, quelques années après, ils ont attiré les Chinois. Et ils vous expliquent que c'est dans cette vision de garder une neutralité qu'ils attirent les différents rivaux.
Alors on peut dire qu'il y a des limites quand même, parce qu'il y a eu à un moment, je crois, le projet d'une base russe aussi.
Oui.
Et où ça, ça faisait quand même un peu beaucoup, c'est pas passé. Enfin, les Djiboutiens se sont dit qu'on pouvait pas quand même installer une base russe juste à côté de la base américaine, ouais.
Exactement. Alors, c'est pas la seule limite, mais effectivement, déjà pour ça, moi, il m'avait dit, bon, là, on s'est dit que autant américains et chinois, ça pouvait être possible, autant là, idéologiquement, ça allait pas être possible d'imposer les Russes aux Américains et aux Occidentaux. Mais vous avez tout simplement d'autres limites. Pendant très longtemps, les Djiboutiens ont estimé qu'il ne fallait pas que les voisins de la Somalie interviennent en Somalie. Ce qui était sûrement une très bonne idée, mais aujourd'hui vous avez tous les voisins de la Somalie qui sont présents, au moins au sein de la mission de l'Union africaine en Somalie, et même les Djiboutiens du coup, qui ne pouvaient pas rester sur le côté et qui ont toujours été un acteur important, qui se voyaient comme un acteur plus légitime que les autres dans la médiation de la crise somalienne. Du coup, aujourd'hui aussi, ils sont en Somalie. Vous avez cette limite. Vous avez la limite, j'allais dire, du chéquier, dans le sens que les Djiboutiens sont très proches des Saoudiens. Et lorsqu'il y a eu des tensions diplomatiques fortes entre les pays du Golfe et l'Iran, Djibouti a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Ça a été pareil avec le Qatar. Ils ont rompu leurs relations diplomatiques, alors même que le Qatar avait envoyé des troupes en observation à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée et qui se sont... Ils ont rapidement retiré, ce qui a fait peur d'ailleurs aux Djiboutiens. Mais cette position affichée de neutralité, dans les faits, elle ne fonctionne pas.
Ouais. Alors, il faut peut-être faire un point maintenant sur la France, simplement, pour dire que l'investissement de la France continue, mine de rien, à diminuer. On en a déjà parlé avec Elie Tenbaum, mais les forces de présence baissent, et l'ouverture de la base militaire aux Émirats Arabes Unis, clairement, acte, dans une certaine mesure, cette réorientation, même si ce n'est pas forcément contradictoire. En tout cas, le fait est qu'il y a... les ressources étant limitées, ça, forcément, ça affaiblit Djibouti. Même si, bon, la France aide Djibouti, qui a un conflit avec l'Érythrée en 2008, il y a quand même, disons, l'idée que la France continue à se retirer d'une manière ou d'une autre, et les Djiboutiens, c'est même pas en son parfaitement conscient, c'est le ressentent, oui. Et le ressentent assez, enfin, on a une conscience très forte, quoi.
Oui, c'est assez paradoxal parce que je lisais récemment un article où Emmanuel Macron, le président, disait « Mais alors, si je dis quelque chose sur l'Afrique, on me le reproche, et si je fais rien, on me le reproche. » Et c'est un petit peu la même chose avec la France à Djibouti. Si elle est trop présente, on lui reproche de mettre son nez dans des choses qui ne la regardent pas et ne la concernent pas. Et si elle est moins présente, on lui reproche de se désintéresser de Djibouti et d'abandonner Djibouti. Donc, j'aimerais pas être ambassadeur là-bas parce que c'est toujours très compliqué. Et c'est quelque chose qu'on revoit très fréquemment. Effectivement, la France a redéfini sa présence sur le continent africain. La présence française à Djibouti, en tout cas en termes d'hommes, devait beaucoup baisser. Ça a fait très peur aux Djiboutiens. Pour une raison importante, c'est qu'on était aussi en pleine renégociation de l'accord de défense et une diminution trop forte de la présence française faisait que presque automatiquement, la France n'aurait pas été capable de respecter cet accord de défense s'il y avait eu un problème. Donc on peut comprendre l'inquiétude
des Djiboutiens. De défendre Djibouti s'il y avait eu une attaque, quoi.
Oui. Donc on peut comprendre un peu l'inquiétude des Djiboutiens qui sont questionnés en disant « Attendez, si vous mettez vraiment ça en œuvre, du coup l'accord de défense, c'est plus possible. » Après, ça a posé aussi beaucoup de questions économiques, tout simplement parce que lorsque les États-Unis sont arrivés à Djibouti, les Djiboutiens pensaient que ça allait être une nouvelle ressource économique pour le pays. Mais il s'avère que Djibouti, c'est une zone de guerre pour les Américains, ils ne sortent pas de leur base. Donc ils sont très peu insérés dans le tissu social djiboutien. Ce qui n'est pas le cas de la France. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de la France, qui avait des familles, qui étaient très présentes, qui louaient des appartements tout simplement dans Djibouti, qui vont au restaurant, etc., etc. Et avec la baisse des effectifs français, c'est des choses toutes bêtes, mais on a tout simplement débaillé des appartements, rendu le bail de certains appartements, parfois à des hauts dignitaires djiboutiens, qui ne l'ont pas forcément très bien pris. On a rendu également l'hôpital Boufar. Alors, c'est bien accepté parce que, du coup, c'est aussi symboliquement l'ancien colon qui, petit à petit, restitue aux Djiboutiens et aux Djiboutiens à prendre en main eux-mêmes ce genre d'institution. Et en même temps, ça a été perçu comme un abandon.
Vous voyez,
c'est toujours très ambigu.
Ouais. Mais alors, du coup, parlons, disons, du troisième joueur dans tout ça. Donc, on a compris que les Américains sont là, mais ça se communique pas tant que ça à la société djiboutienne. Les Français sont en train de se retirer. Il y a un acteur qui est en train de monter assez vertigineusement. C'est évidemment la Chine. Donc, depuis l'implantation d'une base militaire, donc en 2017, enfin, signée en 2015, matérialisée en 2017. On a déjà parlé assez souvent, disons, de ce que ça représentait pour la diplomatie chinoise de vouloir se projeter à l'extérieur. Mais faut peut-être dire que c'est des investissements qui sont complètement massifs à l'échelle de Djibouti. C'est une base qui pourrait être considérable puisqu'elle pourrait comprendre 10 000 hommes à terme. On rappelle que la France, c'est 1 500 hommes. Donc voilà, quelles sont les perspectives par rapport à ça? C'est toujours le jeu compliqué que joue évidemment Djibouti. C'est voilà, se trouver, profiter de la manne et en même temps risquer de se trouver dans une situation de dépendance.
Bien, vous l'avez parfaitement résumé. J'avoue que je suis un peu perplexe sur cette question de la Chine et Djibouti. À la fois, je comprends tout à fait le positionnement djiboutien et à la fois, je comprends aussi les inquiétudes des partenaires de Djibouti. Pour les résumer, j'étais en janvier 2017 à Djibouti et c'était l'euphorie. C'était véritablement l'euphorie. Il y a beaucoup d'investissements de près de la Chine. On va pouvoir évoluer, on va pouvoir transformer aussi notre économie. Ça ne sera pas que le port. On va faire du tourisme, on va être un centre financier. On a plein d'infrastructures, il va y avoir des emplois, etc., etc. Et dans le même temps, ou quelques semaines après, il y a eu des inquiétudes formulées par le FMI sur le niveau d'endettement de Djibouti. Ça, c'est quelque chose que les Djiboutiens ont très mal pris. Ils l'ont vu comme un coup des Français, en fait, qui était derrière cette déclaration du FMI et ces rapports du FMI. Et puis, ils ont eu une réaction qui peut se comprendre de dire Et vous avez été présent pendant 40 ans, notre pays n'a pas bougé. Il y a des quartiers toujours aussi pauvres, l'économie n'a pas changé, on est toujours sur notre port. On a voulu réformer notre port, on vous a demandé en premier, vous n'avez pas réagi. Donc en fait, on a l'opportunité d'avoir un autre acteur qui nous propose autre chose, ben on y va. Et un ministre djiboutien qui avait parfaitement résumé ça, qui m'avait dit, mais Sonia, nous sommes un petit État, comme tu le dis, on n'a pas beaucoup de choix et on doit prendre des risques. Et on prend ce risque. Et ils avaient tout à fait conscience en disant, bah, peut-être que demain, on devra revendre des parts du train. Les Chinois ont construit, ont reconstruit un nouveau train et chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti. Des parts du port, oui, c'est peut-être une perte de souveraineté à venir, mais bah, voilà, au jour le jour, on prend ce risque. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le régime était autoritaire et très corrompu. Effectivement, selon les chiffres internationaux, la corruption à Djibouti est assez forte, voire même aurait beaucoup augmenté. Donc, on peut penser aussi que c'est une stratégie court-termiste du régime de différents acteurs au sein du régime qui veulent gagner de l'argent. Du coup, vous voyez, je comprends les différents discours et j'ai oui, aussi des inquiétudes. Les Chinois ont investi plus que l'équivalent du PIB djiboutien à Djibouti. Et en même temps, quand vous vous baladez, bah, ça change. Il y a des infrastructures, il y a des choses qui changent. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une population très pauvre, que bah, finalement, il n'y a pas plus d'emplois, il y a toujours du chômage. Donc, est-ce que ça va changer structurellement l'économie? Je ne sais pas.
Bon, bah écoutez, on a le temps de voir évoluer ça, puisque de toute façon, la France va rester là un certain temps et Djibouti va pas perdre sa position. Djibouti va pas bouger de cet endroit-là de
De son
verrou
rocher.
sur le Bab-el-Mandeb. Merci beaucoup, Sonia El-Ghorielec.
Merci beaucoup.
Je rappelle donc le livre qui vient de sortir, même si ça va peut-être être un peu compliqué de l'acheter dans l'immédiat, peut-être sur Internet.
On peut l'avoir en PDF en ligne.
Bon, très bien alors. Donc Djibouti, la diplomatie de géant d'un petit État aux prés universitaires du Septentrion. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que nous sommes très preneurs de vos suggestions et remarques. Vous pouvez nous les envoyer par mail à contact@irsem.fr ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des étoiles et des commentaires sur le podcast, notamment sur iTunes, puisque c'est à la fois un retour bienvenu pour nous et en même temps ça aide à faire grandir le podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.